Chapitre 1er. Dans un des gouvernements d'Estep, dans la petite ville de Rojnov, un dimanche, comme la messe venait de finir et que chacun avait baisé la croix, Ivan Semonovitch, l'avocat procureur du district, quelque chose comme le procureur de la République en France, me pria d'honorer de ma présence son gâteau de fête. « C'est ma fête aujourd'hui, » dit-il. « Nous aurons pour convives le préfet de ville, le bailli du district, le juge, l'archiprêtre Siméon, mon confesseur, un diacre, le maître de poste et quelques autres. Mais, ajouta-t-il, ne vous avisez pas de venir tard comme on fait à Pétersbourg. Nous ne sommes pas des gens de capitale, nous sommes de bons et simples hommes des steppes. » Il frappa sur l'épaule d'un marchand épicier remplissant les fonctions de maire et lui fit son invitation, que celui-ci accepta en se courbant pour saluer jusqu'à la ceinture. Il en fit de même pour un employé des douanes, préposé au vin, et pour deux ou trois petites barbes, après quoi il doubla le pas pour aller nous attendre chez lui. Tandis que nous nous dirigeons vers sa maison en troupe et comme en procession, les habitants s'arrêtaient pour regarder passer tant de puissants personnages et leur faisaient d'humbles saluts. Mais quoique chacun de ceux qu'on honorait ainsi se fût empressé de rendre les saluts s'il avait été seul, se sentant tous réunis, ils ne pouvaient réellement pas avoir la même condescendance. Faites une botte de baguette d'osier dont chacune est si flexible, le faisceau ne ploiera pas. Notre hôte nous attendait sur le perron de sa maison et nous introduisit. Nous traversâmes la salle à manger, où la table était déjà couverte de mets très provoquants. Les petites barbes et les moins huppées des convives s'arrêtèrent là, tandis que les autres pénétraient au salon, les premiers remplaçant cet honneur, qui ne leur était pas dû, par des récits, des dialogues, des potins, des ramages sur les uns et sur les autres, et sur les événements du jour et de la veille. Une poule blanche de la femme de l'archiprêtre s'était noyée dans un seau. Une vieille femme avait vu un fantôme. Le diacre avait surpris dans son jardin un garçon se préparant à la prêtrise, causant de fort près avec une jeune fille. Au salon, les autres convives avaient trouvé la maîtresse de la maison assise sur un divan entre la femme du préfet de ville et la femme du bailli. Au-dessus du divan était un grand portrait d'un gouverneur en brillant uniforme, avec un large ruban rouge lui traversant diagonalement la poitrine et deux plaques d'ordre différents. Debout, près de leur mère, étaient les deux enfants de notre hôte. L'un jouait avec son nez, l'autre, à la vue de la barbe de l'archiprêtre, jeta des cris d'épouvante. La mère les prit par les mains et les mena dans leur chambre. Notre hôte nous invita, selon l'usage, à venir prendre dans la salle à manger quelques liqueurs et à goûter quelques salaisons et hors-d'œuvre avant leur repas pour exciter l'appétit. Le maître de poste, qui se vantait à l'occasion d'avoir lu Voltaire et de partager ses principes, prit la parole. « Tu devrais, » dit-il à notre hôte, il tutoyait tout le monde, « faire apporter tout cela ici. »« Y pensez-vous, Ivan Pavlovitch ?» répondit celui-ci un peu troublé, et lui montra le portrait accroché au-dessus du divan. Ce portrait, représentant un homme d'un certain âge, outre l'uniforme, le grand ruban rouge et les deux plaques, était encore remarquable par un nez long et recourbé, un regard investigateur, sévère et presque cruel, d'épais sourcils en brosse et un cadre violemment doré. « Eh bien, » reprit Ivan Pavlovitch, « c'est un portrait, il ne nous mordra pas. » « Cessez vos plaisanteries !» interrompit notre hôte en le prenant par le bras et l'entraînant vers la salle à manger. « Vous êtes, dites-vous, fils de Voltaire, mais nous autres, nous sommes fils de nos pères et chrétiens. Cessez et venez boire. » « On peut, » répondit le fils de Voltaire, et il se laissa emmener. Dans la salle à manger, debout devant une petite table, on but de l'eau-de-vie de grain et on mangea du caviar. « Épicier, » dit le fils de Voltaire au maire, « voilà du vrai, du bon, de l'exquis caviar. Pourquoi ne nous en vends-tu pas de pareil ?»« Parce que cela ne convient pas. Mes clients ordinaires ne pourraient pas ou ne voudraient pas le payer, et les nobles, qui d'ordinaire n'achètent rien chez moi, m'honoraient de leur clientèle, m'en prendraient à crédit et ne le paieraient jamais. » Les dames étaient sorties pour manifester décemment à l'égard des liqueurs un dédain qui n'était plus nécessaire dans la chambre de la maîtresse de la maison. On achève de charger la table, on apporte 5 grands coulbacs, des pâtés de poisson, un énorme esturgeon, des gélinottes piquées de lard gras. « Mettons-nous à table, » dit le procureur. « On peut, » répond le fils de Voltaire. On mange, on boit. Le maître de poste, de plus en plus fils de Voltaire à mesure qu'il boit l'eau-de-vie de grain, pour laquelle il dédaigne les fades vins de France, prend l'archiprêtre et son robuste appétit pour but de ses sarcasmes. On se lève de table, le maître de poste, un peu appesanti, veut s'en aller. Il va au salon chercher son chapeau et ne le trouve pas. Puis, un peu essoufflé, tombe sur une chaise et s'endort. L'archiprêtre, le diacre et les petits invités sont partis. Le préfet de ville dit à notre hôte « Ivan Semenovitch, racontez-nous l'histoire du portrait. Mais vous la connaissez déjà, Anton Mikhailovitch. » « Oui, mais votre nouvel hôte ne la sait pas, » répond le préfet en me désignant. « Il n'est pas bon, » dit le procureur, « de parler de telles choses dans une salle à manger. Rentrons au salon. » Nous le suivons au salon. Il est un peu ému et ferme les portes, puis raconte à peu près en ces termes l'histoire du portrait. Il y a quelques années, son Excellence M. Oboldoniev, maréchal de la noblesse, daigna acheter aux enchères dans notre district une propriété comprenant plusieurs villages. Il y avait dans cette propriété une très vieille et très grande maison, mais dont les murs étaient aussi solides que les murailles du Kremlin. Il la fit réparer, embellir, orner, et elle devint, comme vous le savez, un miracle de magnificence. Il y avait des sculptures que l'on aurait pu mettre au palais de l'empereur sans manquer au respect qui est dû à ce monument. Puis il appela de Riga un célèbre peintre allemand, Karl Ivanovitch, dont le nom est assez connu, qui couvrit tous les plafonds de nymphes, de cupidons et d'une foule de personnes nues, mais roses, dodues, et il faut l'avouer, agréables à voir.